Depuis le début des années 1950, les États-Unis ont dépensé des milliers de milliards de dollars en prévision d'une guerre nucléaire, tout en peaufinant des protocoles censés permettre au gouvernement de continuer à assurer ses fonctions, alors que des centaines de millions de citoyens américains auront péri dans une apocalypse d'une ampleur sans précédent. Le scénario présenté ici, un déroulé des événements qui pourraient suivre le tir d'un missile nucléaire visant les États-Unis, s'appuie sur des faits recueillis lors d'entretiens exclusifs avec des conseillers présidentiels, des membres du gouvernement américain, des ingénieurs de l'armement, des scientifiques, des militaires, des pilotes, des membres des forces spéciales, des spécialistes de la gestion des catastrophes, des analystes du renseignement, des fonctionnaires et d'autres personnalités qui tous ont étudié ce genre de conjectures macabres au cours des dernières décennies. Les plans de guerre nucléaire totale comptent parmi les secrets les plus confidentiels du gouvernement américain. Néanmoins, cet ouvrage et la thèse qu'il explore puisent dans toutes les informations légalement accessibles. Certains détails tirés de documents déclassifiés, occultés pendant des décennies, sont terrifiants de précision. Parce que détruire le Pentagone représenterait un objectif prioritaire pour une puissance nucléaire hostile, nous avons fait de Washington la cible de la première bombe, un engin thermonucléaire d'une mégatonne. Une attaque de type « bolt out of the blue » est ce qu'on redoute le plus à Washington, admet Andrew Weber, ancien secrétaire assistant à la Défense, délégué au programme nucléaire, chimiques et biologiques. Dans le langage des responsables politiques et militaires, « bolt out of the blue », un éclair venu de nulle part, désigne une attaque surprise de grande envergure. Cette première frappe déclenche un conflit nucléaire mondial, une issue plus que probable dans de telles circonstances. Une petite guerre nucléaire, ça n'existe pas, est une phrase que l'on entend fréquemment à Washington. L'attaque contre le Pentagone sert de prélude à une série d'événements qui aboutiront à l'effondrement de notre civilisation. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Le scénario envisagé ici pourrait se réaliser demain ou tout à l'heure. Le monde pourrait disparaître d'ici 2 heures, nous avertit le général C. Robert Keller. Ancien commandant de l'US Strategic Command, STRATCOM, le commandement stratégique responsable de la mise en œuvre du plan de riposte nucléaire. Prologue. L'enfer sur Terre. Washington, peut-être dans un avenir proche. Une explosion thermonucléaire d'une mégatonne produit d'abord un flash de lumière et de chaleur qui dépasse l'entendement humain. Près de 100 millions de degrés Celsius, c'est 4 ou 5 fois plus chaud que le centre du Soleil. Les conséquences effroyables pour les êtres humains et les villes se fondent sur les informations recueillies à Hiroshima et Nagasaki après les bombardements américains en 1945, à une époque où la puissance des bombes nucléaires se calculait en milliers de tonnes de TNT ou kilotonnes. Ces engins étaient conçus pour détruire des villes. Avec l'arrivée de l'arme thermonucléaire, la bombe H, dans les années 1950, l'unité de mesure est devenue la mégatonne, autrement dit le million de tonnes. Ces bombes-là étaient destinées à annihiler des nations. Au cours de la première fraction de milliseconde, la bombe thermonucléaire, ou bombe H, qui vient de frapper le Pentagone à la périphérie de Washington, émet un rayonnement. Des rayons X dits « mous » qui ont une très courte longueur d'onde. Sous l'effet de ce rayonnement, la température de l'air environnant atteint rapidement des centaines de milliers de degrés, créant une gigantesque boule de feu qui se dilate à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. En quelques secondes, elle fait près de 1800 mètres de diamètre, irradiant une lumière et une chaleur intenses. Le béton éclate, le métal fond ou se vaporise, la pierre se brise. Les êtres humains sont instantanément carbonisés. Le Pentagone, un bâtiment qui compte 5 façades et 5 niveaux au-dessus du sol, explose avec tout ce qu'il contient. 600 000 mètres carrés de bureaux réduits en poussière ardente par le flash lumineux et thermique initial. L'arrivée quasi simultanée de l'onde de choc fracasse les murs. Les 27 000 employés périssent sur le coup. Il ne reste rien à l'intérieur du périmètre de la boule de feu. Rien du tout. Le point d'impact est rayé de la surface de la Terre. La chaleur rayonnante se propage à la vitesse de la lumière et enflamme tout ce qui est inflammable à plusieurs kilomètres à la ronde. Rideaux, papier, livres, barrières en bois, vêtements et feuilles mortes s'embrasent. Ce combustible alimente une tempête de feu d'au moins 260 km², dévastant une agglomération qui, une seconde plus tôt, était encore le cœur battant du gouvernement américain et abritait quelques 6 millions d'habitants. À plusieurs centaines de mètres au nord-ouest du Pentagone, les 2,59 km² du cimetière militaire d'Arlington sont réduits en cendres. Les 400 000 dépouilles de combattants, les 3 800 soldats afro-américains affranchis enterrés dans la section 27, les visiteurs venus rendre hommage aux morts en ce début d'après-midi printanier, les jardiniers occupés à tondre la pelouse et à entretenir les arbres, les guides et leurs groupes, les gardes en gants blancs du 3e régiment d'infanterie en faction devant la tombe des soldats inconnus, tous brûlés vifs. Un instant plus tard, il ne reste que des figurines humaines noircies. Une poussière organique fuligineuse. Cela se voit au moins épargner les supplices inouïs que commencent déjà à endurer les 1 à 2 millions de blessés graves n'ayant pas succombé sur le champ à cette attaque surprise sans précédent. Un peu moins de 2 km au nord-est, sur l'autre rive du Potomac, les murs et les colonnes de marbre surchauffés des mémoriaux dédiés à Lincoln et à Jefferson se fendent, éclatent et se désintègrent. Les ponts d'acier et de pierre, ainsi que les routes reliant les deux monuments historiques aux quartiers voisins, se soulèvent et s'effondrent. Au sud, de l'autre côté de l'Interstate 395, l'immense bâtiment en verre du Fashion Center de Pentagon City, ses boutiques de mode et de décoration haut de gamme, les restaurants et les bureaux environnants, l'hôtel Ritz-Carlton, tout est anéanti. Les solives, les 4 étages d'escaliers mécaniques doubles, les lustres, les tapis, les meubles, les mannequins, les chiens, les écureuils et les êtres humains sont détruits par le feu. Le mois de mars s'achève. Il est 15h36, heure locale. 3 secondes se sont écoulées depuis la déflagration initiale. Un match de baseball a lieu 4 km à l'ouest, au stade des Nationals de Washington. Les vêtements de la majorité des 35 000 spectateurs s'enflamment. Ceux qui ne meurent pas rapidement souffrent de brûlures au 3e degré. Toutes les couches de la peau sont détruites, les tissus sous-cutanés mis à nu. Les brûlures au 3e degré nécessitent des soins spécialisés immédiats et dans certains cas, des amputations vitales. On compte pour l'instant quelques milliers de rescapés dans l'enceinte du stade. Ils étaient à l'intérieur, en train d'acheter à manger ou aux toilettes, des gens qui ont maintenant besoin de rejoindre au plus vite un centre de traitement des brûlés. Mais seulement 10 lits leur sont dédiés dans l'agglomération de Washington, à l'hôpital MedStar, situé en ville. De toute façon, l'établissement se trouve à 8 km au nord-est du Pentagone. S'il est encore debout, il n'est plus opérationnel. Le centre des brûlés John Hopkins de Baltimore, 70 km au nord-est, possède moins de 20 lits qui ne tarderont pas à être tous occupés. Au total, les 50 États américains n'ont jamais plus de 2000 lits spécialisés libres en même temps. En quelques secondes, 1 million de personnes supplémentaires sont grièvement brûlées par les radiations thermiques de la bombe nucléaire d'une mégatonne qui a frappé le Pentagone. 90% d'entre elles ne survivront pas. Les scientifiques de la défense et les chercheurs universitaires travaillent sur la question depuis des décennies. La plupart des victimes mourront à quelques pas de l'endroit où elles se tenaient au moment de l'explosion. Ce sont les « retrouvés morts », pour reprendre le terme employé par les experts de la défense civile dans les années 1950, quand on a commencé à faire ce genre de calcul macabre.